Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 août 2024. Le 6 août 2024, le lendemain d'une énorme claque qu'on n'avait plus vue depuis un bon moment. Il faut dire qu'on est noyé dans un rallye boursier absolument phénoménal. Du coup, ça nous avait fait un peu oublier le fait qu'on pouvait aussi baisser. Donc hier, on a bien compris, on s'est pris une belle claque en général. Plus sur les marchés asiatiques que sur les marchés européens, et encore plus sur les marchés asiatiques que sur les marchés américains. Mais l'un dans l'autre, on s'en sort relativement pas mal. Panique, pas panique, récession, pas récession, c'est les grandes questions du moment. On va essayer d'y répondre calmement ce matin, puisque finalement, il n'y a pas beaucoup d'autres nouvelles que le fait que hier, on s'est pris une claque monumentale et que ce matin, le Nikkei est en hausse de 10% déjà. Avant d'aller plus loin et avant de commencer ce résumé de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait se passer ces prochaines semaines ou prochains jours ou prochaines heures, j'aimerais commencer par une chose. Tout d'abord, merci. Merci parce que hier, pendant que les marchés se faisaient démonter, que les marchés se faisaient déchirer et que tout le monde pensait que la tech était terminée et que l'intelligence artificielle était une grosse escroquerie, eh bien, nous sommes passés au-dessus des 40 000 followers sur la chaîne Swissquote en français. Alors, chaîne Swissquote en français qui a commencé, en ce qui me concerne, j'ai commencé à publier début septembre, il y a 4 ans en arrière, pas encore 4 ans, bientôt 4 ans en arrière, et gentiment, on est passé de pas grand monde à 40 000 followers. C'était franchement pas attendu et visiblement, eh bien, vous êtes entre 700 et 1000 tous les mois à s'inscrire régulièrement sur cette chaîne. Donc, on peut espérer peut-être un jour avoir le YouTube Creator qui devrait nous arriver dans les bras le jour où on passera les 100 000. Mais ça, c'est de la musique d'avenir. En tous les cas, merci à vous d'être là tous les jours encore et encore pour subir ces vidéos, surtout quand les marchés sont comme ça. Et puis, revenir régulièrement nous voir et nous encourager à le faire. Quand je parle de « je dis nous », c'est Vincent Gann, c'est tous les gens qui sont derrière cette chaîne. Merci, merci à vous, parce que sans vous, ce ne serait pas possible. Et puis, en ce qui me concerne, merci à Swissquote aussi de m'avoir fait confiance jusque-là. C'est un vrai plaisir et également une superbe aventure. Revenons maintenant à nos moutons et revenons à ce qui s'est passé hier. Alors donc, on s'est pris une claque. 3% sur le S&P 500, 3,4% sur le Nasdaq, 2,63% de baisse sur le SMI, 1,42% de baisse sur le CAC, 1,82% de baisse sur le DAX. Finalement, en Europe, c'est pas catastrophique, c'est pas des mouvements monstrueux, mais c'est vrai que on n'était pas super habitués ces derniers temps à subir ce genre de mouvement. Donc, grosse claque sur les marchés financiers, le Bitcoin s'est fait démonter, on est allé chercher nettement en dessous des 52 000 à un moment, je crois, sur le Bitcoin, les crypto-monnaies se sont fait massacrer, tout ce qui était risqué s'est fait démonter, la tech s'est fait avoiner, Nvidia a perdu plus de 6%, bien qu'à un moment donné, elle perdait plus de 10%, et que malgré tout, on arrive quand même à terminer au-dessus des 100 dollars, ça c'est un signe. Apple s'est fait démonter, mais terminer en baisse de moins de 5% l'un dans l'autre, donc on voit quand même, même durant la séance, eh bien, les gens ont quand même évité de paniquer à l'extrême, puisque la plupart des titres de référence, les Magnificent Seven, même si on ne compte plus les milliards qui se sont volatilisés durant la séance d'hier, eh bien, les Magnificent Seven ne se sont pas sortis si mal que ça. On notera aussi Google, qui a perdu plus de 4% sur la séance d'hier, qui a perdu un procès antitrust contre le département de la justice pour avoir payé Apple et pour devenir le moteur de recherche principal des iPhones. Eh bien, malgré tout ça, Google ne perdait que 4% et rebondissait après la séance de 1,6% ou 1,3%. Apple est également en rebond après la séance, Nvidia reprenait 3% après la séance, et malgré tout ça, malgré le fait que pendant quelques instants on s'est dit la bulle de l'intelligence artificielle est en train d'exploser, eh bien on a quand même pas mal de gens qui sont venus nous dire non, ça n'est pas en train d'exploser, c'est juste un passage obligé comme dans toutes les nouvelles technologies qui se développent, il y a des corrections et il faut savoir en profiter. D'ailleurs hier soir, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a Palantir qui est quelque chose qui est en périphérie de l'intelligence artificielle. Palantir a sorti des très bons chiffres avec des commentaires dithyrambiques de la part du CEO, le titre prenait 12% after close, donc on voit que notre folie de l'intelligence artificielle, eh bien, n'est pas encore complètement terminée. Et ce n'est pas une petite baisse des marchés asiatiques qui vont nous faire douter à ce point-là. Marchés asiatiques qui, comme je le disais ce matin, ont déjà rebondi 10% sur les 12 perdus hier, ce qui va quand même plutôt pas mal. D'ailleurs, puisqu'on parle de rebond, le S&P 500 est déjà indiqué en hausse de 1,5% ce matin, très très tôt. Quand je parle de ce matin très très tôt, je parle de 5 heures ce matin. Mais l'un dans l'autre, on voit que les choses sont en train de vouloir déjà retourner. Donc la grande question finalement qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est Que s'est-il passé? Mais avant toute chose, on va essayer de remettre les choses un tout petit peu en perspective. Tout d'abord, il faut savoir que quand on a des journées de panique, comme hier, parce que oui, c'était une forme de panique, quand vous avez la vol qui monte à 64%, vol qui est déjà redescendu à 38 entre deux et qui devrait être divisé probablement par deux dans la journée, eh bien, on peut appeler ça des journées de panique. Les gens ont peur. Toutes nos belles convictions qu'on avait ces derniers mois se sont envolées en quelques instants. Il y a une forme d'angoisse. Mais ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que si on regarde dans l'histoire, les corrections de 10 à 15% par rapport au plus haut, ça arrive quand même régulièrement. Ça arrive plus ou moins tous les 30 mois. Tous les 30 mois, eh bien, on a ce genre de correction. C'est pas tous les 30 mois exact, c'est en moyenne. Tous les 30 mois, on a quand même ce genre de correction qui nous tombe sur la tête. Donc, c'est pas quelque chose qui n'arrive pas. Simplement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier très rapidement parce que finalement, c'est que 10 ou 15% et que généralement, c'est récupéré assez rapidement. Et cette statistique, elle remonte sur 200 ans. Alors, je dis pas que les 100 premières années sont très fiables, mais les 100 dernières années sont plutôt représentatives de la réalité des marchés. Et au milieu de ces corrections de 10 à 15%, on a toutes les 4 corrections, plus ou moins, quelque chose qui correspondrait à un bear market, une grosse correction, un crash, peu importe comment on veut dire ça. Mais un bear market se produit, et là, cette fois, c'est un peu plus que 10 ou 15%. Et à chaque fois qu'on a un bear market, on connaît les statistiques, il faut environ entre 18 mois et 6 ans pour tout récupérer. Récemment, c'était plutôt 18 mois que 6 ans. Mais l'un dans l'autre, on voit que c'est quelque chose qui arrive régulièrement, sauf que, comme on a une mémoire de poisson rouge, on a tendance à s'en souvenir que très rarement. Donc voilà, ça arrive, c'est des choses qui se produisent, surtout après un bull market, comme on vient de vivre depuis le mois d'octobre. Je ne vais pas vous ressortir tous les chiffres parce que vous les connaissez aussi bien que moi. Le marché a rebondi de manière massive en pariant sur une baisse des taux qui, assez logiquement, va se produire au mois de septembre. Donc, en résumé, si vous êtes un investisseur long terme et si on arrête simplement trader pour jouer dans les 12 prochaines minutes, on devrait plutôt voir ça comme une opportunité d'achat et une opportunité pour se repositionner pour l'avenir. Même si cette baisse d'hier n'est que le début d'une baisse qui va nous emmener en bear market et on va avoir une baisse un peu plus importante que ça, l'un dans l'autre, de toute manière, on sait que dans les 18, 24 mois, allez, 3 ans, on aura tout récupéré. Donc, oui, vous me direz, c'est pas rigolo d'avoir un portefeuille en baisse sur les 3 prochaines années, mais il faut simplement remettre en perspective le fait que ce genre de situation, ça se produit et c'est ce qui s'est produit hier. Ce qui est assez intéressant à observer ce matin également, c'est qu'on est dans un mode enquête, hein. On est en mode NCIS, les gens sont en train de chercher la raison de la baisse et pourquoi est-ce que tout d'un coup ça a baissé aussi violemment. Alors, il y a les usuels suspects, c'est l'arrivée de la récession éventuelle. Ça, on a vu les chiffres économiques qui sont en train de ralentir aux États-Unis, qui nous font craindre cette possibilité de récession. On a le carry trade. Donc, le carry trade, c'est quoi? Pour résumer ça en 12 secondes, c'est aller emprunter de l'argent dans une monnaie qui a des taux d'intérêt extrêmement bas, en l'occurrence le yen, pour aller replacer cet argent dans une monnaie qui a des taux d'intérêt extrêmement hauts, en l'occurrence le dollar. Résultat, quand tout d'un coup vous avez des taux d'intérêt sur le yen qui remontent et des taux d'intérêt sur le dollar qui baissent, ben forcément les gens démontent les positions et ça crée des mouvements un petit peu erratiques sur les marchés financiers et tout spécifiquement sur les monnaies. Résultat, ça peut être une des raisons. Ça peut être une des raisons, mais en même temps, on a l'impression qu'il y avait plusieurs conjonctions qui se rejoignaient hier et que finalement, entre la récession américaine, le début de la saison de la baisse des taux aux États-Unis, le changement de cycle de baisse des taux américains, l'explosion éventuelle d'une bulle technologique et les décisions de Powell qui ne sont pas simples à prendre, eh bien forcément, on avait un mélange explosif qui ne pouvait pas faire autre chose que de nous péter à la figure de ce qu'il a fait hier. Mais l'un dans l'autre, savoir qui est le coupable de ce qui s'est passé hier n'a pas grande importance. Simplement, c'est qu'on s'est fait secouer et on a eu un petit rappel à l'ordre qui nous explique encore une fois que bien les marchés ne montent pas sans discontinuer parce que déjà, on est beaucoup, beaucoup monté et c'est presque normal que finalement, à un moment donné, on prenne quelques profits. D'ailleurs, comme je le mentionnais en ouverture de cette vidéo, ce matin, on a déjà le Nikkei qui rebondit, on a la volatilité qui se calme et quand vous regardez un petit peu les indices Greed and Fear, vous savez, ces fameux indices qu'on utilise comme indice contrariant chez CNN, eh bien, vous avez le Greed and Fear qui est en zone d'extrême peur, bien évidemment. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde les autres indices qui existent sur le site de CNN, vous pouvez simplement aller voir, ils défilent à l'instant sur vos écrans, mais si vous regardez ces différents indices, eh bien, vous verrez qu'ils sont tous quasiment passés en zone d'extrême peur, que ce soit le put-call ratio, que ce soit l'intérêt pour les junk bonds, que ce soit la recherche pour les valeurs refuge, eh bien, on est tous passés en extrême peur. Et quand on est en extrême peur, quand vous avez la volatilité qui fait des spikes extrêmement hauts, il ne manquerait plus que finalement vous avez un bon journal mainstream qui n'a jamais suivi les marchés boursiers de leur vie et qui ne savent pas la différence entre une action et une obligation qui viennent vous faire un article en disant « Attention, les marchés boursiers vont cracher !» Et finalement, vous avez un point de support pour commencer à racheter le marché. Un des thèmes que vous pourrez trouver dans les médias financiers actuellement, c'est la probabilité d'un meeting exceptionnel de la Fed pour couper les taux tout de suite pour empêcher la catastrophe. Alors effectivement, il est possible, la Fed a le droit, comme je le mentionnais hier, de se réunir en catastrophe pour prendre une décision en catastrophe afin d'éviter qu'une situation catastrophique devienne un peu plus catastrophique qu'avant. On en parle donc beaucoup en ce moment, on en parlait beaucoup hier parce que ça peut arriver, mais a priori ça paraît quand même un tout petit peu difficile. On sait qu'aujourd'hui, à la mi-août, de toute manière, c'est relativement calme en général. On sait que les banquiers centraux vont se réunir à la fin du mois à Jackson Hole, donc là on aura un petit feedback. Et puis ensuite, ils se réuniront mi-septembre pour baisser officiellement les taux. La grande question, c'est de combien les taux vont baisser. De plus en plus de gens commencent à parler de 0,5. Il y en a même qui commencent à articuler un 0,75 pour soutenir l'économie, pour empêcher l'entrée en récession. Mais n'oublions pas non plus que la problématique de l'inflation n'est pas réglée. L'inflation va mieux depuis quelques temps, mais si on baisse les taux brutalement, elle pourrait aussi repartir. Et ça, c'est pas ce qu'on aimerait non plus. D'ailleurs, M. Powell est dans une situation absolument détestable. Aujourd'hui, personne n'aimerait dans cette situation-là. Le gars, il est assis sur un tabouret avec des cobras royaux qui lui tournent autour. Il a un pistolet sur la tempe, une corde au cou, et il doit prendre une décision. Et peu importe la décision qu'il va prendre, a priori, de toute manière, ça va lui retomber dessus parce que ce sera sa faute. Donc si récession arrive, c'est de sa faute parce qu'il n'aura pas agi assez vite. Si l'inflation repart, c'est que c'est de sa faute parce qu'il n'aura pas fait ce qu'il fallait faire pour empêcher le redémarrage de l'inflation. Bref, de toute manière, ce sera de sa faute. Et je pense que jamais personne ne viendra lui dire « Bravo Jérôme, t'as fait ce qu'il fallait ». Ou alors peut-être dans 10 ans, mais dans 10 ans, ce ne sera plus tellement son problème. D'ailleurs, pour faire un petit peu le point statistique, si on regarde dans le passé, depuis 1987, la Fed est intervenue plus ou moins 7 fois en catastrophe pour baisser les taux et pour sauver le marché. La première fois, eh bien, c'était lors du Black Monday en 87. Et ils sont intervenus le lendemain. Ils ont encore intervenu une deuxième fois au mois de janvier 88. Ça, c'était la première fois depuis 87 qu'ils intervenaient hors meeting. Ils sont revenus intervenir par surprise en 1990 lors du début de la guerre du Golfe et le début d'une récession qui commençait à se pointer. Puis Greenspan est arrivé en 1998 pour sauver les marchés de la débâcle du fonds LTCM. C'était d'ailleurs la première fois qu'on entendait parler du put de la Fed et c'est la première fois qu'on a compris que finalement les banques centrales étaient nos amis et qu'ils étaient là pour empêcher les marchés de baisser. Donc c'était en 1998. En 2001, il y a eu deux meetings spécifiques. D'abord parce qu'il y avait le dégonflement de la bulle internet extrêmement violent. On ne va pas revenir là-dessus. Et en plus, parce qu'après le 11 septembre, il y a eu bien sûr les événements qu'on connaît qui fait que la Fed a dû intervenir entre deux meetings. Bien sûr, en 2008 pour les subprimes. Et puis, vous vous en souvenez peut-être encore, pour éviter le Covid avant qu'on nous invente les vaccinations, les masques, les distanciations sociales et les autorisations de sortie. Et puis, pour être parfaitement complet, en 1994, la Fed est également intervenue entre deux meetings pour monter cette fois les taux, pour empêcher une inflation qui menaçait de ne plus être transitoire et sous contrôle. Mais encore une fois, aujourd'hui, on peut se demander, on peut se poser la question, est-ce que vraiment il y a une nécessité d'intervenir en urgence ? Au niveau de l'économie, on sait que la récession semble s'ouvrir à nous, c'est une possibilité. En tous les cas, le marché le montre, le comportement des marchés le montre, puisque simplement les gens sont en train d'acheter des défensives, de chercher des titres qui payent des gros dividendes, on achète des bons du trésor et on vend la tech. Hein. Tous ces quatre comportements que l'on peut observer en ce moment sur les bourses mondiales, eh bien, montre que les gens anticipent une récession. Alors une récession, ça peut être une récession de courte durée, ça peut être une récession de longue durée, mais on sait que la Fed va devoir la gérer. Donc la problématique qu'on a là aujourd'hui, c'est à quel moment je baisse les taux trop tôt ou trop tard pour favoriser la baisse de l'inflation ou le début de la récession ou vice-versa. Donc comme je le disais avant, la tâche de M. Powell n'est pas simple, mais c'est là où le marché se trouve pour l'instant. Mais malgré cette situation que l'on pourrait presque qualifier d'inextricable, eh bien, il semblerait qu'il n'y a pas d'urgence de rappeler tout le monde depuis leurs vacances à Hawaï pour revenir faire un meeting de la Fed et décider une baisse des taux de 0,25% qui ne devrait pas changer grand-chose. A priori, il serait plus logique de patienter calmement, de rebondir comme on est en train de le faire ce matin et d'attendre une intervention officielle de la Fed le 19 septembre avec une baisse peut-être un peu plus importante que 0,25% avec un 0,5%. Ou allez, soyons fous, 1,75 pour sauver l'économie. Mais attention, si on remonte les taux trop brutalement, le problème de l'inflation n'est peut-être pas complètement réglé non plus. Voilà ce que l'on pouvait résumé sur ce qui s'est passé et dans quel état d'esprit nous sommes ce matin 6 août 2024. Aujourd'hui, on a très peu de chiffres économiques. On aura des publications qui vont continuer, bien sûr. Aujourd'hui, on aura Uber ce matin avant l'ouverture. On aura Airbnb après la clôture. Et puis surtout, on aura Supermicro aussi après la clôture. Alors, Supermicro, ça sera très intéressant puisque après Nvidia, c'est le trade sur l'intelligence artificielle. Donc, on aura encore l'occasion d'en reparler. Mais c'est un petit peu les points d'achoppement de ces prochaines heures. Pour l'instant, le Bitcoin remonte, les cryptos remontent, les futurs sont en hausse. Et puis finalement, on a l'impression que cette crise de panique qu'on a eue en ce lundi matin, 5 août, semble déjà se résorber. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le Nikkei n'a pas encore terminé sa séance à l'heure où je vous parle, donc tout est encore possible. Mais en tous les cas, on voit quand même que rebond il y a et excès de panique peut-être il y a eu hier. Mais affaire à suivre, et tant mieux parce que comme ça, ça me donnera l'occasion de vous refaire une vidéo pour en reparler demain matin depuis mes vacances. Voilà, en tous les cas, merci d'avoir été avec moi ce matin pour cette remise à niveau. Merci d'être 40 000 à venir le faire d'ailleurs. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. D'ailleurs, merci encore hein, parce que hier, je crois qu'on est à plus de 14 000 vues sur la vidéo d'hier. Et donc, ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur et ça m'a donné une bonne raison de savoir pourquoi je m'étais levé au milieu de la nuit pour essayer de répondre à quelques questions sur ces marchés financiers qui sont en mode canicule en ce moment. Voilà, passez une excellente journée et moi je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Light. Soyez forts et à demain. Bye bye.